Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur cette émission extraordinaire. On va parler d'aéronautique, de spatial, aujourd'hui dans cette émission toute spéciale qu'on a construite avec le partenaire du jour, Airbus, dont on va avoir largement l'occasion de parler. Bienvenue à vous qui nous regardez sur Twitch ou si vous regardez ce replay sur YouTube. Vous me connaissez peut-être un petit peu, je suis un streamer qui parle d'actualité politique d'habitude, mais je suis aussi un grand passionné d'aéronautique. On parle d'avions sur ma chaîne de temps en temps, on joue à Flight Simulator énormément, un certain nombre de membres de la communauté ont découvert le jeu et l'aéronautique grâce à moi, parce qu'on en discute et parce que quand on joue, on parle beaucoup d'avions. Et ça a été l'occasion, on s'est dit avec Airbus, avec qui on est entré en contact, que ça pouvait être l'occasion de donner naissance à une chouette émission assez intéressante pour parler justement de la place de l'aéronautique dans nos vies, parce que si on regarde bien dans l'actualité, bah, il y a quand même pas mal d'avions, d'hélicoptères, de satellites et de fusées qui interviennent assez régulièrement, et c'est l'occasion d'en parler avec un constructeur aussi important qu'Airbus. On est sur ce plateau justement avec mon invité Jean-Brice Dumont. Bienvenue Jean-Brice.
Merci. Merci Jean.
Merci d'être avec nous. Jean-Brice, tu es le dirigeant d'Airbus Defence and Space, c'est ça ?
C'est ça, je suis dans Airbus Defence and Space, qui est une des branches d'Airbus.
Et c'est quoi ton boulot à toi alors ?
Mon boulot, c'est je suis le patron des avions militaires. Donc de okay. tous les avions qu'Airbus fait pour nos armées de l'air la plupart du temps, celles de nos pays et un peu partout dans le monde.
Ça fait longtemps que tu fais ça ? Tu
faisais quoi ? Ça fait bientôt 4 ans.
Okay.
Et j'étais avant plutôt l'ingénieur, on va dire, l'ingénieur multifonction. J'ai été directeur technique d'Airbus avant.
Donc directeur technique de tout le groupe Airbus ?
Directeur technique des avions.
Des avions.
Et avant ça, j'étais directeur technique des hélicoptères, donc d'une autre branche. Donc j'ai traîné mes guêtres un peu partout dans la maison Airbus, avec avant ce poste-là, essentiellement des fonctions techniques. J'étais le patron des ingénieurs, on va dire.
On va prendre le temps de parler et de présenter Airbus dans quelques instants, mais également sur ce plateau. Nous sommes avec Gilles Roy. Cher Gilles, je suis très heureux de t'avoir sur mon plateau.
C'est un honneur pour nous de te retrouver ici.
Gilles, tu es journaliste spécialisé dans l'aéronautique depuis très longtemps et tu es le fondateur d'un site internet d'information que j'aime beaucoup qui s'appelle Aérobuzz. C'est quoi Aérobuzz ?
Alors, Aérobuzz, comme tu le dis, c'est un journal d'information aéronautique en ligne. On l'a créé donc il y a une quinzaine d'années. C'est une bande, je dirais, de journalistes au départ vraiment spécialisés en aéronautique. Alors là, tout domaine, hein, puisqu'on va de l'ULM jusqu'à Ariane 6. Donc on traite des avions d'aéroclub aussi facilement que de la 400M ou d'Ariane 6. Donc voilà, donc on a un spectre très très large. Et contrairement à toi, nous on s'intéresse à l'aéronautique tous les jours, puisque c'est vraiment notre fond de commerce. Ouais.
Effectivement, qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez, je me suis perdu dans mon doc. On est tous les trois passionnés d'aéronautique, assez clairement. Ça vous vient d'où, vous savez, votre passion pour l'aéro ? Moi, je crois que c'est Salon du Bourget, quand j'étais tout petit, milieu années 90, j'y suis allé avec mon papa. Je crois que c'est né à ce moment-là.
Alors,
tu saurais dire, toi, à quel moment ça a commencé ?
Oui, assez bien. Oui. J'ai pris l'avion. Dans ma famille, on a pas mal été éclatés dans le monde. J'ai pris l'avion pour aller rendre visite à mon oncle et ma tante qui habitaient à l'île Maurice quand j'avais 8 ans.
D'accord.
C'était pas tout à fait le milieu des années 90. Et je me souviens de ce premier vol comme si c'était hier, presque.
C'est marquant.
Et après, on a habité en famille à Tahiti. Tahiti, c'est loin. Et ça m'est arrivé de prendre l'avion pour revenir seul en UM, là, tu sais, avec le petit placard, que je rêvais.
Ah ouais,
je...
le truc pour les enfants tout seuls en avion, ouais.
Mais sauf que c'est 24 heures de vol.
Ah ouais.
Et je rêvais de prendre l'avion, y compris de prendre l'avion tout seul. Et la passion est venue de là, ouais. C'est à l'enfance.
Et toi, Gilles ?
Oui, alors moi aussi, c'est un peu familial, c'est-à-dire que mon père, j'habitais à Lyon déjà, et qui venait à Paris une fois par mois pour ses affaires, prenait un Viscount d'Air Inter, voilà, et donc il nous racontait son vol, et pour moi c'était magique. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours des gens qui m'ont dit « l'aviation, c'est possible, ça ressemble à ça ». Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé dans un planeur, et là, ça a été le déclic.
Ah bah ça, le planeur, oui, ça marque pas mal. J'ai eu l'occasion et la chance d'en faire. Si un jour vous pouvez faire un baptême de l'air, un baptême de l'air en planeur, surtout foncé, vous allez voir, ça marque. Dans cette émission, on va parler d'Airbus, on va parler d'actualité et de l'utilisation de l'aéronautique dans l'actualité justement. On va parler de sauvetage, on va parler de lutte contre les feux de forêt, on va parler de l'avenir de l'aviation, des enjeux écologiques. On va essayer de se faire une promesse, les copains, on jargonne pas. Ça pourrait, parce qu'on est trois passionnés, ça peut aller très vite, vous nous connaissez. Moi, quand je parle de politique, je peux jargonner très facilement. Quand je parle d'aéronautique, ça peut jargonner vite. On va essayer de faire une émission la plus accessible possible. Le but, c'est, on l'a fait pour vous, les amis, cette émission, surtout vous qui êtes assez éloignés du monde de l'aéronautique, qui découvrez ça depuis assez peu, depuis mes streams sur Flight Simulator ou autre. Donc, on va essayer de faire ça. Commençons par parler d'Airbus. On va aller à la rencontre ensemble du groupe Airbus, parce que même moi, en préparant cette émission, j'ai été impressionné. Je ne me rendais pas compte de la taille d'Airbus, alors que je croyais savoir. En fait, je ne savais pas. Commençons par la base. Airbus est une entreprise internationale. À quel point c'est une boîte internationale, Jean-Brice ?
Airbus, c'est le résultat d'un grand projet européen qui était un projet de faire des avions ensemble. La marque Airbus est née de ça, de quatre nations qui étaient France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, qui ont fait des avions de ligne ensemble. Et la marque, maintenant, a quelque part dominé tout ce qui aujourd'hui s'appelle Airbus, qui est un groupe qui fait beaucoup plus que des avions de ligne, qui est présent dans beaucoup plus de pays que ces quatre pays fondateurs, on va dire. On a 138 nationalités chez Airbus, on est 150 000, donc c'est quand même un nombre...
150 000 personnes.
150 000, c'est une ville, c'est Dijon, je sais pas moi, c'est partout dans le monde. On est quand même 50 000 en France. La France a un rôle très important dans la maison Airbus. Et puis, on est les avions de ligne, on est les hélicoptères, la maison dans laquelle j'ai personnellement grandi. Pour ma part, je suis pilote d'hélicoptère et c'est là où j'ai commencé ma carrière. Et on est ce qu'on appelle Airbus Defence and Space, qui est là où je travaille, où on fait des choses très variées, dont on aura l'occasion de parler travers de tes questions. Mais on est même 50% d'Ariane, on fait des satellites, on fait des avions militaires,
Airbus est même présent aux États-Unis, Gilles.
Oui, alors Airbus est présent, donc tu parlais d'hélicoptères, d'avions. Donc au niveau avion, c'est à Mobile, dans l'Alabama, où il y a une chaîne d'assemblage finale d'A320, A321. Mmh. Et puis en ce qui concerne les hélicoptères, il y a également donc une unité de production, puisque Airbus fournit l'US Army, hein, c'est ça hein.
C'est un des gros sujets, une des rares occasions qu'on a eues de vendre à grande échelle au département de la défense américain, qui en général a quand même une tendance à acheter américain, et ce qui est un vrai sujet pour l'Europe. Et ce programme d'hélicoptères est un succès mais phénoménal, avec plus de 500 hélicoptères vendus à l'armée américaine.
Quand on parle de grande échelle, plus de 500, et ça continue.
Oui.
Et ça continue.
Airbus, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, Jean-Brice, qu'Airbus était un assembleur d'avions. Ça veut dire quoi ?
Ben, ce qu'on voit pas très bien dans le monde de l'aviation, et alors là, c'est ce que je vais dire est valable pour un avion de ligne, valable pour un hélicoptère, valable pour un avion militaire, de transport militaire. Ce qu'on voit bien, c'est l'avion qui sort d'une chaîne d'assemblage, tout fini, prêt à être livré au client. Ça, c'est le résultat d'un travail d'intégration, c'est le terme qu'on utilise, de tout un tas d'ensemble. Il faut mettre des bouts de structure ensemble, il faut mettre des câbles électriques à bord, il faut mettre de l'hydraulique, il faut mettre tout ce qui permet à un avion in fine de fonctionner. Et si on devait faire juste une histoire de valeur, le travail d'Airbus représente 20% de la valeur de l'avion, en gros, 20-25%. Tout le reste est acheté. Donc en fait, on a ce rôle d'assembleur du puzzle, sachant qu'on a quand même d'assez grosses pièces du puzzle parfois qui nous arrivent. Et c'est ce qui est complètement fascinant, hein, c'est qu'on est ceux qui faisons l'avion fini à partir d'un travail absolument fondamental et très professionnel de toute une chaîne de fournisseurs.
Airbus, on connaît, nous, le grand public, pour ses avions de ligne, parce qu'on monte dedans la plupart du temps. On a parlé d'avions, on a parlé d'hélicoptères, mais Airbus, c'est aussi de l'espace. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Ça représente quoi, le spatial, chez Airbus ?
Le spatial, chez Airbus, c'est un gros sujet. On est, je pourrais le dire de plusieurs façons. Alors, je peux commencer par les lanceurs, peut-être, puisque l'espace, c'est à la fois ce qui permet d'envoyer les satellites dans l'espace, et ensuite, c'est les satellites. On est, avec Safran, 50% de la maison Ariane Group, qui est la maison qui fabrique et qui commercialise les fusées Ariane. Mais on est aussi un fabricant de satellites et on est aussi un fabricant d'équipements de satellites et on est aussi ceux qui font le service à partir de ce que les satellites envoient sur Terre. Par exemple, nous avons un satellite qui s'appelle Pléiade Néo, qui est un de nos joyaux en termes d'observation de la Terre. Et ce satellite-là, on en traite les images et on a comme client, pour en citer un qui est assez connu, Google. Google Earth, les images de Google sont des images
Airbus.
Airbus. Nous avons Google comme client, nous vendons nos images à Google.
D'accord. Gilles, c'est commun chez un avionneur d'avoir un lien avec le spatial dans le monde ou pas ?
Non, pas tous, mais les gros avionneurs qui sont à l'échelle d'Airbus, effectivement, ont tous des départements spatiaux. Alors, bien sûr, on pense à Boeing, hein, évidemment, mais il y en a d'autres. Embraer aussi est branché. Embraer, ouais. C'est donc le constructeur brésilien
hein.
Qui a aussi une gamme d'avions civils, avions militaires et qui est aussi dans le spatial. Donc, alors après, je ne te parle pas de la Russie où là c'est et la Chine, où là, c'est encore différent.
Il y a Ariane 6 qui fait partie des projets Airbus, on le rappelle, Ariane 6, la fusée européenne, Kourou, la Guyane, tout ça, c'est un projet d'Airbus et de Safran, c'est un projet commun d'Airbus et de Safran. Tu l'as dit, Airbus, leader mondial de l'imagerie satellite, et Airbus fabrique aussi les satellites de l'ESA dans le programme Copernicus.
Alors l'ESA, on a dit qu'on allait mutuellement se reprendre quand on jargonnait.
Exactement.
Donc ESA, c'est l'Agence spatiale européenne.
C'est l'Agence spatiale européenne, exactement, qui a un programme qui s'appelle Copernicus, qui sert à observer la Terre, mais plus précisément à observer l'évolution de la température de la Terre. Le climat terrestre et son évolution, les données sur lesquelles bossent les scientifiques, viennent en grande partie de satellites Airbus.
Oui, le Copernicus est un de ces programmes phares et l'Agence spatiale européenne, qui fédère les nations de l'Union européenne, est un des gros clients d'Airbus pour ce qui concerne les satellites. Des programmes comme Copernicus, c'est des programmes ultra importants. Ultra importants, un, parce que ça fédère l'Europe autour d'un projet, et ça, on en a besoin de nos jours. Et deux, par l'objectif, tu l'as dit. On parle beaucoup du changement climatique. On aura à en parler un peu plus tard pour ce qui concerne l'effet de l'avion. On peut faire partie du problème et y réfléchir. Là, on fait partie de la solution. Aider à observer les changements climatiques, comme on peut d'ailleurs aider à observer les feux, mais ça aussi, on y reviendra. Les satellites ont, dans leur application civile, une panoplie d'utilisations, et je ne parle pas trop de l'utilisation militaire.
Tu parles de militaire et justement, on continue notre petit tour de découverte du géant Airbus. Airbus fait des avions et des hélicoptères civils et des satellites, mais aussi des militaires. Airbus est aussi un groupe de défense. Ça représente quoi la défense, le militaire chez Airbus ?
Chez Airbus, la défense, c'est une part très importante qui se trouve d'une part chez la maison Airbus Defence and Space, celle à laquelle j'appartiens, et chez Airbus Hélicoptères. Puisqu'on va peut-être commencer par les hélicoptères. La grande majorité des hélicoptères de la maison Airbus Hélicoptères sont des hélicoptères à vocation dual. Ce qu'on appelle dual, c'est qu'une même plateforme, un même hélicoptère, qu'on appellera écureuil, dauphin, ou avec les noms plus modernes de ces hélicoptères, peut être vendu à des clients civils et être vendu à des clients militaires, qui eux-mêmes peuvent faire une utilisation plutôt civile, de sauvetage, de parapublic, j'allais dire, de leurs hélicoptères. Et nous avons des avions militaires dont on en voit quelques-uns derrière moi, des avions militaires de tout type, de l'avion de chasse, l'avion de ravitaillement de l'avion de chasse, et puis les avions de transport qui sont, le fer de lance de beaucoup des opérations de nos jours, avec du transport d'un peu toute taille. Et je pense que dans la dimension service de la maison, j'aurai l'occasion de m'étendre un peu plus sur ce sujet.
L'avion de chasse d'Airbus, c'est l'Eurofighter, qui est un programme européen de coopération pour créer ça. Il y a quoi d'autre comme avion ou hélicoptère emblématique de la défense chez Airbus ? La 400M, cet avion de transport très célèbre, je pense. Enfin, je ne sais pas si le grand public connaît si bien, mais...
Les avions emblématiques, qui sont des avions de coopération... sont, tu l'as dit, l'Eurofighter, qui est un avion à quatre nations, avec le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. La 400M, qui est un avion à plus de nations. La 400M, c'est notre avion de transport, c'est le couteau suisse, j'oserais dire, qui peut tout faire. Et je pense que j'y reviendrai sur sa capacité à la fois faire des missions militaires, mais aussi faire des missions pour sauver des vies. Ouais. Et puis, on a effectivement chez les hélicoptères deux hélicoptères très, très symboliques qui sont des hélicoptères pour le coup purement militaires, que sont le Tigre, l'avion de chasse de l'hélicoptère, on va dire, et le NH90 avec son cousin, ce qui s'appelait avant le Super Puma, le Cougar, le H225, qui sont des hélicoptères plus lourds, de transport de troupes plus polyvalents. Et le 225 est un hélicoptère typiquement dual, avec des applications civiles et des applications militaires.
Alors, dans la dualité, on a également la 330 MRTT. La 330 est un avion de transport. Vous pouvez monter dedans, vous, demain. Un A330, ça se prend de manière civile. Mais un A330 peut aussi être transformé en avion militaire et devenir un avion, alors là aussi, couteau suisse, puisqu'il va permettre de ravitailler des avions de chasse en vol, donc le caractère de ravitailleur, mais aussi de mener des opérations de guerre électronique. Alors ça, j'y connais un peu. Je ne connais pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un A330, un MRTT ?
Sans noyer les auditeurs, la 330, c'est un des avions de ligne avec lequel on va un peu loin. C'est l'avion à deux moteurs de la gamme Airbus avec lequel on va un peu loin, sous l'A350 qui est un peu plus gros. On prend cet avion-là et on lui installe un système de ravitaillement, donc une perche à l'arrière pour ravitailler les avions, un système assez complexe. Mais on le laisse configurer en avion de transport. Donc cet avion-là peut transporter des gens, en même temps ravitailler des avions de chasse, des avions de transport, des avions qui ont besoin d'aller un peu loin. Et peut servir dans des configurations d'évacuation médicale, dans des configurations de transport de matériel un peu lourd, un peu complexe. Je pense au Covid, notamment à la période Covid, où ces avions ont été utilisés pour des rapatriements de gens atteints gravement. Et on a installé des dizaines de civières très équipées dans l'avion, et ça a permis de faire des rotations d'assez loin, notamment des territoires d'outre-mer, mais aussi en Europe, plus simplement en Europe, d'un pays à l'autre.
Puisqu'on parlait d'avions de transport, je me suis fait engueuler par le chat parce qu'on a failli oublier de parler du Beluga. Très important, le Beluga, on l'aime le Beluga, qui est un avion de transport interne à Airbus. En plus, c'est intéressant, Airbus a son propre avion pour livrer ses différents sites de production, c'est ça ?
Oui, alors le Beluga dont on a connu deux générations, le premier était sur une base d'Airbus A300. L'Airbus A300, c'est l'avion fondateur d'Airbus, c'est le premier avion d'Airbus. Le deuxième est aussi un dérivé d'Airbus A330, comme le ravitailleur dont on vient de parler. Là, on le découpe par le haut et on a installé une espèce de cathédrale sur le sommet de l'avion qui permet de transporter en fait des bouts d'Airbus. Parce que comme on est une entreprise très internationale avec des morceaux d'Airbus qui sont faits un peu partout et qui convergent ensuite vers une chaîne d'assemblage qui va finir l'avion, les ailes, par exemple, arrivent toutes d'une usine qui est à Broughton, au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Et ces ailes, il faut les amener. Et donc, elles viennent en avion. De Broughton à l'endroit où elles doivent être installées. Et le Beluga, c'est un truc absolument fabuleux qui transporte donc à peu près tout, mais pour commencer pour nous, des bouts d'Airbus.
Et c'est hyper important, et tout le monde l'aime, le Beluga. Il y a des groupes de fans sur Facebook et tout, je trouve ça à mourir de rire. On parlait de cette dualité donc du civil et du militaire, sur le fait qu'un même avion, une même plateforme, un même hélicoptère peut être utile pour l'un comme pour l'autre, transformer de l'un en l'autre, c'est faisable. Mais il y a aussi quelque chose d'important, Gilles, pour un avionneur comme Airbus, c'est le fait que des technologies vont être utilisées dans le civil et dans le militaire. C'est un truc qu'on retrouve chez d'autres avionneurs aussi ?
Oui, alors bien sûr qu'on le retrouve chez d'autres avionneurs, et sans aller très très loin, chez Dassault. Ouais. Dassault, il y a un transfert de technologie entre les avions d'armes, c'est-à-dire les Mirage 2000 au départ et maintenant les Rafales, vers la gamme Falcon.
Hein, ce sont des avions civils, les Falcon.
Ce sont les avions d'affaires et les commandes de vol électriques, par exemple, qui ont été développées sur le Mirage 2000. On les a retrouvées dans les premiers avions d'affaires qui les ont utilisés, c'était les Falcon. Donc il y a ce transfert de technologie, effectivement, qu'on retrouve de l'un vers l'autre. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les avions militaires d'Airbus, de la nouvelle génération, sont des avions certifiés. Et ils sont certifiés comme des avions civils. Ça veut dire que, donc, outre le fait qu'ils puissent...
Ça veut dire quoi certifier un avion ?
Pardon ?
Ça veut dire quoi, certifié ?
Certifié, ça veut dire qu'il répond à tout un ensemble de normes. Et alors, quand je dis un ensemble de normes, c'est épais comme ça. Hein.
Ouais.
Mais donc, ces avions militaires peuvent s'insérer dans le trafic civil. Ça, c'est la première chose, et ça, c'est important. Et la deuxième, ça veut dire aussi que c'est les mêmes qualifications pour un pilote militaire ou un pilote civil. Alors, évidemment, un pilote, un tableau de bord d'A400M, ça ressemble à un tableau de bord d'A380, par exemple. Mais on ne lui demande pas tout à fait les mêmes missions. Et donc, c'est là où on fait la différence. Mais n'empêche que c'est très, très important pour les armées, aujourd'hui, d'avoir des avions qui sont certifiés comme des avions civils.
C'est quelque chose que vous avez, effectivement, chez Airbus, cette utilisation de technologies d'origine civile vers le militaire et d'origine militaire vers le civil ?
Oui, oui. L'exemple que vient de donner Gilles est très bon. Le cockpit de l'A400M est de génération proche de celui de l'A380, l'autre joyau de la maison,
ouais.
et de l'A350 qui est arrivé après. Ça rend la formation des pilotes, ça rend les conversions de pilotes beaucoup plus faciles et ça augmente la sécurité à la fin. Parce que les pilotes ont des réflexes qui sont associés à un type de cockpit, à un type d'indication. Ils vont changer d'avion, et je pense en particulier à des militaires qui se convertissent dans le civil, ou même à des militaires qui finalement peuvent être assez facilement formés dans le civil, sur la formation de base de l'avion civil. On a cité la 330. Après, ils ont à faire une conversion à la partie militaire de leur mission, qui est quand même un petit sujet, hein, mais l'avion de base, ils l'ont maîtrisé comme dans le civil.
– D'accord. C'est quoi, on arrive à la fin de cette espèce de panorama de compréhension de ce que c'est qu'Airbus et de l'ensemble de ses missions et de ce caractère assez tentaculaire et assez impressionnant. C'est quoi l'environnement concurrentiel d'Airbus ? C'est qui vos adversaires dans ce monde ? On pense tout de suite à Boeing, le géant américain, Boeing, Airbus, Airbus, Boeing, la compétition. Mais ailleurs dans le monde, il y a aussi d'autres géants comme ça ?
Alors, celui qui a la forme la plus proche d'Airbus, c'est effectivement Boeing, qui fait des avions civils, des avions militaires de différents types, qui fait de l'espace, qui fait des services. On ne parle pas beaucoup, parce que ça parle un petit peu moins de tout ce qui est toute la dimension service. Parce qu'une fois qu'on a livré nos avions à nos clients, il faut qu'ils volent quand même. Hein, et ça nous occupe un peu. Boeing a une forme assez proche. On ne colle pas à 100%, mais c'est peut-être l'entreprise qui est la plus proche en forme. Après, on a des géants militaires, typiquement, qui ne font pas beaucoup de civils, comme les géants américains, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, qui sont des entreprises de défense. Et eux, dans le civil, on les voit pas trop. Ils ont un peu de filiales qui font de la défense, mais on en voit peu. Et après, on a en Europe des grosses boîtes qui ont aussi des similitudes avec Airbus, mais à une taille plus réduite, comme Leonardo en Italie, BAE au Royaume-Uni, qui est une entreprise, elle, de défense aussi. Et à part ça, il faut aller chercher en Russie et en Chine. Mais là, on tombe plutôt sur des arsenaux, sur des organismes d'État, quelque part. Et on n'est pas tout à fait sur le même schéma qu'Airbus. Et tu citais, Gilles, tout à l'heure, Embraer au Brésil, qui est aussi une entreprise assez polyvalente, mais d'une taille plus réduite.
– Je crois que les Chinois sont en train de construire un Airbus.
– Ils construisent tout.
– Oui.
– Ils construisent tout.
– Les Chinois sont effectivement en développement sur tous les segments qui sont les nôtres. Ils sont en train de construire l'A320 chinois, qui s'appelle le C919. L'appareil est livré, commence à voler. Les Chinois sont effectivement en train d'apprendre assez vite sur le segment de l'aviation civile. Et je ne parle pas de l'aviation militaire, parce que je pense que ça parlera à tout le monde. Personne ne me contredira quand je dirai que les Chinois s'équipent côté militaire.
Oui.
Et je n'en sais pas forcément beaucoup plus que la moyenne d'entre vous.
– Pourtant, tu es le directeur de Airbus Défense, mais j'y reviens parce que c'est assez important. Sur cette chaîne, on a suivi pendant toute l'année 2024 les élections européennes, on a reparlé de cette Union européenne, de cette difficulté à construire des politiques publiques communes à 27 pays, etc. Mais Airbus, c'est aussi une Europe, en fait, ça doit être un enfer en interne. Je veux dire, c'est peut-être t'as bien dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comment d'être un groupe européen doit remettre autour de la table des intérêts nationaux parfois différents, etc.
Bah, je dirais pas que c'est un enfer. C'est pas forcément facile tous les jours. Par contre, quand on voit, je prendrais juste l'exemple de l'aviation civile.
Ouais.
Il y a 50 ans, les nations, la France, l'Allemagne, c'est rentré dans un ordre un peu dispersé, quatre nations ont eu un projet politique commun de faire un avion. 50 ans plus tard, on a le leader de l'aviation commerciale et on ne se pose pas de questions. C'est, on utilise l'Airbus 2 un peu partout. On a fait un truc où, pour avoir travaillé un moment dans la maison Airbus Avion Civil, les gens sont de toute nationalité, mais personne ne se demande d'où je viens, quel est mon pays, est-ce que mon gouvernement va être content ou pas. Non, on fait l'avion Airbus ensemble, les ailes viennent du Royaume-Uni, une bonne partie du fuselage est en Allemagne, les systèmes sont répartis selon les pays, entre l'Espagne, l'Allemagne, la France, et ça se passe bien. Quoi. Et pour moi, ça, c'est le principe de l'Europe qui marche. Derrière, on a effectivement une Europe qui a grandi, une Europe à 27 pays maintenant, où effectivement le fardeau administratif posé par l'Europe est un sujet qui pose problème. Et là, Airbus, on n'est pas très différent des autres. Okay. On voit l'Europe comme une absolue nécessité. Par contre, le comment, on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec la façon dont ça se passe.
Parlons d'un sujet d'actualité qui a fait intervenir des avions et beaucoup d'avions, c'est la question de la lutte contre les feux de forêt. On a eu l'occasion d'en parler, chers amis, rappelez-vous, ces feux qui ont touché la Californie, autour de Los Angeles notamment, on en a beaucoup parlé. Plus loin, l'année dernière, c'était l'Espagne qui avait été très très fortement touchée. On peut parler de la Grèce. Et puis bon, on va pas faire semblant, on peut parler de la France aussi. La France a l'habitude, malheureusement, d'être également touchée par des feux de forêt dans le sud et de plus en plus dans le nord. On fait intervenir des aéronefs, des avions et des hélicoptères. Et Gilles, je t'ai demandé de nous préparer une petite chronique pour venir nous aider à comprendre dans quel environnement on fait intervenir des avions pour lutter contre les feux de forêt. C'est à toi.
Et dans ta liste, on aurait pu ajouter l'Australie aussi, oui. Où en fin d'année dernière, il y a eu des incendies gigantesques. Hein. Donc on se retrouve en ce moment avec des feux de forêt incontrôlables, des avions gigantesques qui arrivent sur ces brasiers, des hélicoptères de tout type aussi. Et c'est vraiment les flammes de l'enfer. Et la lutte contre les incendies est devenu un morceau de choix pour les réseaux sociaux et même pour les chaînes d'infos. Hein, donc, mais derrière ces déploiements de forces spectaculaires se cache une question cruciale. Les moyens aériens actuels sont-ils suffisants pour un monde qui brûle de plus en plus ? Alors, c'est ce que je voudrais vous partager avec vous. Donc en France, comme tu le disais, donc il y a effectivement, on a connu quand même quelques feux importants ces dernières années. En Europe aussi, il y a le Portugal, la Grèce. Le Canadair reste le bombardier emblématique pour la France, pour l'Europe. Mais il a une capacité d'emport limitée à 5 ou 6 tonnes d'eau ou de retardant. Donc ça veut dire que le Canadair est condamne plutôt ses pilotes à viser juste, mais ce n'est pas la seule limite du Canadair. Le Canadair a besoin, pour remplir ses réservoirs, a besoin de plans d'eau à proximité pour éviter des longs cheminements entre l'endroit où il se réapprovisionne et l'endroit où il va larguer. Et donc ça, c'est vraiment son principal handicap. Et c'est aussi la limite de son engagement. Donc c'est pour ces raisons, par exemple, que les Canadairs, on en voit très très peu aux États-Unis. Alors, on en a vu.
C'est parce qu'il n'y a pas d'eau à disposition.
L'eau est pas. Les fronts sont trop éloignés des endroits où ils pourraient écoper.
D'accord.
Il faut se souvenir quand même que le porte dans son nom, mais le Canadair a été inventé par les Canadiens. Et au Canada, les lacs,
partout.
C'est pas ce qui manque. En revanche, les endroits où on peut se poser sur la terre ferme, ça, il y en a pas. Hein, donc, on en a vu quand même des Canadairs au mois de janvier en Californie, parce que là, il fallait battre le rappel, il fallait faire venir tout ce qui pouvait aider à lutter contre les incendies de forêt. Donc, le Canadair est un avion qu'on aime bien, nous, en Europe, hein, puisque l'Europe vient d'en commander 22 exemplaires. Et 22 exemplaires, ça a suffi à décider le constructeur canadien pour relancer la production des avions. Donc, les écopeurs, comme on les appelle, ont encore de l'avenir, malgré toutes les réserves que j'ai pu faire. Et alors, au-delà de la relance de la fabrication, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, on a vu arriver trois start-up européennes qui sont arrivées avec des projets de bombardiers d'eau amphibies. Donc des concurrents du Canadair, des concurrents vraiment alors sur son créneau, et Dieu sait si c'est un créneau étroit. Et alors on va voir si ça marche, s'ils vont réussir à faire leur place. On parlait tout à l'heure de certification. Ils risquent d'avoir quand même un parcours du combattant assez important pour arriver jusqu'au jour où ils seront capables de livrer ces avions. Donc ça. Pour l'instant, la seule certitude, c'est qu'on va avoir des nouveaux Canadair d'ici quelques temps qui auront des capacités toujours quand même très limitées.
D'accord.
Alors, face au Canadair 9, l'option aujourd'hui, c'est, du moins, pas aujourd'hui, mais depuis pas mal de temps, c'est la seconde main. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire des avions de ligne reconvertis en bombardiers d'eau dans une seconde vie. Donc, ce sont des avions qui sont intéressants parce qu'ils coûtent pas cher à l'achat. Ils ont déjà été amortis dans leur première vie en transportant des passagers. Mais alors, c'est des avions qui sont anciens et d'ancienne génération et qui sont usés et donc qui coûtent assez cher en ce qui concerne leur exploitation. Il n'empêche que donc là, l'avantage est très très large. Donc, ça, on va du quadri-réacteur BAE-146. Alors, c'est un avion un peu particulier qu'on appelle aussi le fer à cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit avion avec quatre gros réacteurs.
Oui, ça me dit quelque chose. Je vois à quoi il ressemble. Ouais.
Donc, c'était aussi l'avion qu'utilisait la reine d'Angleterre pendant un temps pour ses transports.
Conçu pour se poser au centre de Londres. Voilà. Petit avec quatre moteurs.
À Londres City.
Pouvoir se poser à Londres City.
Donc en face de ce BAE-146, on a encore vu au mois de janvier les DC-10. Alors ça, c'est des avions triréacteurs des années 70. Ouais, j'ai fait mon baptême de l'air sur un DC-10. Toi, tu parlais
tout à l'heure. J'allais à Tahiti en
DC-10. En DC-10.
Voilà, j'ai fait mon baptême de l'air en DC-10. Il y a eu même plus gros. Jusqu'en 2021, il y avait le supertanker. Et là, le supertanker, c'est un jumbo jet, un Boeing 747, transformé en bombardier d'eau. Et là, on emporte 77 tonnes d'eau. C'est gigantesque. Vraiment. Mais bon, c'était aussi gigantesque à utiliser. Donc, ces avions de ligne reconvertis en bombardier d'eau sont retirés du service les uns après les autres, parce que la maintenance, comme je l'ai dit, est vraiment très lourde. Et dans les années à venir, ils vont être appelés à être remplacés par des avions, toujours des avions de ligne, mais de nouvelle génération. Et c'est là qu'on va voir arriver les premiers Airbus, puisque on a appris à la fin de l'année dernière qu'une société américaine qui est spécialisée donc dans la lutte contre les incendies, qui s'appelle Neptune, a confié à Aerotech, une société toulousaine, la transformation des A319. Et donc là...
On peut avoir des A319 bombardiers d'eau ?
Alors, moi, je te dis oui, il faut poser la question.
C'est incroyable.
Bon, on va me demander mon avis, puis je le donnerai.
D'accord.
Okay, dans le principe, les autres l'ayant fait, rien ne l'interdit, mais il faut être assez prudent avec la façon dont on modifie nos avions.
Ben ouais.
D'en préserver la sécurité. Parce que c'est bien d'aller éteindre un incendie. Si c'est pour mettre les avions par terre, c'est pas une bonne idée.
Ouais.
Donc on est appelé à donner notre avis ou à contribuer à ce type de projet.
J'imagine, oui.
Et pour l'instant, en l'occurrence, pas trop.
Mais tu soulignes aussi un aspect particulier. La reconversion de ces avions, elle se fait en général hors du constructeur. Alors, le constructeur a un regard, mais parce qu'en même temps que l'A319, on voit arriver aussi des Boeing 737 de nouvelle génération. Alors, nouvelle génération, tout est relatif, c'est les 700. C'est-à-dire que c'est des avions qui sont en train d'être remplacés par le 737 MAX. Donc ces avions-là sont déjà transformés. Donc, a priori, il n'y aura pas de souci.
On peut le penser, oui. Non, mais les gens qui font ça sont très sérieux.
Oui, bien sûr.
Ils ont à démontrer aux autorités de certification, aux États-Unis notamment à la FAA, que ce qu'ils font est sûr. Que les modifications de l'avion, il faut voir que c'est des gros avions de ligne dans lesquels, normalement, il y a des passagers tous assis à peu près au même endroit, une répartition de charges assez régulière. d'un coup, on met, on dit qu'au lieu de ça, on met 20, 30 tonnes de liquide et que d'un coup, le liquide, il se barre par gros paquets. Donc, le centrage de l'avion, tout ce qui joue sur la cellule évolue un peu. À eux de démontrer que ça le fait, entre guillemets. Ouais. Beaucoup d'autres l'ont fait avant. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, il faut faire attention.
Donc, il faudra attendre 2027 pour voir donc, un Airbus sur un feu. Mais peut-être que la 400M, et c'est là où on en vient à Airbus Defence and Space, la 400M pourrait griller la priorité à la 319. Puisque donc, la 400M est en cours d'essai sur ces feux. Et alors, la 400M, ce n'est pas le premier avion militaire à avoir été transformé, à vouloir être transformé en bombardier d'eau, puisque en Californie, dans les récents feux, on a vu arriver les 8 C-130 Hercule de l'US Air Force. Et c'est la... Alors donc, le C-130, c'est le très gros...
Oui, très gros.
C'est très gros avion de transport américain.
Transformé en bombardier d'eau.
Transformé en... L'US Air Force en a 8. Okay. Et c'est vraiment très, très rare de les voir, les 8, engagés en même temps sur un feu, ce qui prouve l'importance du feu. Et c'est arrivé moins d'une dizaine de fois en 50 ans. C'est la preuve que ces avions de transport militaire ont aussi eu un débouché sur ce marché particulier qui est celui des bombardiers d'eau. Et ça, Embraer, Airbus et puis Leonardo l'ont compris, puisque ces trois avionneurs, dont vous faites partie, sont en train de faire des essais de transformation de leurs propres avions de transport en bombardiers d'eau. Donc, le premier à avoir vraiment testé sur un feu un avion, c'est Embraer au Brésil. Dans le Mato Grosso, en fin d'année dernière, je crois. Bon, apparemment, ça s'est bien passé. Airbus poursuit ses essais équipé d'un kit qui peut emporter 20 tonnes. Hein, donc là aussi, ça marche bien. Tu nous diras où vous en êtes. Et puis, ben voilà. À quelle échéance ils pourraient être engagés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces avions qui ont été conçus à l'origine pour le transport, hein, le transport militaire et le ravitaillement en vol, avec la lutte contre les incendies, ont un débouché supplémentaire. Ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de couteau suisse. Donc, c'est encore une lame de plus. Hein, et donc, ça veut dire aussi que pour les pays qui s'équipent de ces avions-là, ça peut être intéressant aussi d'un point de vue économique. Alors, pour être complet, j'aurais peut-être dû parler de l'AVIC AEAG-600 chinois, qui est aussi un avion, alors pour être spectaculaire, ou du Bereïev BE-200 russe. Là, ce sont des avions vraiment qui ont du caractère. Hein, c'est des gros avions amphibies, mais qui ont une capacité limitée à 12 tonnes quand même. Hein. Mais là, on quitte le chapitre de la lutte contre les feux de forêt pour passer dans celui de la géopolitique. Alors, quoi que les feux, ils n'ont pas de frontières.
Merci. Ouais, les feux n'ont pas de frontières. Merci beaucoup, Gilles, pour cette chronique. Effectivement, tu l'as dit en début de chronique, et c'est important, les incendies sont en train d'évoluer à cause du changement climatique. Et on commence à mesurer la différence avec le passé. C'est que les feux... Déjà, la saison des feux est beaucoup plus longue. Et tout ça tire sur les appareils, sur les machines, sur les hommes aussi d'ailleurs qui les font voler. Les incendies se déplacent aussi dans l'espace. En France, par exemple, on était habitué aux incendies dans le Var. Maintenant, on a des incendies en Charente-Maritime, on a des incendies en Bretagne. Le Morbihan, il y a eu des grands incendies, je crois que c'était l'été dernier. Voilà, on va devoir commencer à s'habituer malheureusement à avoir des saisons des feux avec des feux bien plus loin. Et ça crée effectivement une forte pression sur tous les avionneurs du monde qui doivent proposer des solutions. Et c'est votre cas Airbus, avec cet A400M, vous proposez un kit à vos clients, aux pays qui possèdent des A400M, un kit pour les transformer momentanément en avions pour lutter contre les incendies.
Exactement. Alors ça fait partie, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, ça fait partie du panel de ce sur quoi on travaille autour de la lutte contre les incendies, qui est un sujet beaucoup, beaucoup plus large que l'avion lui-même. Mais effectivement, on propose, on a fait des essais très concluants avec un A400M, tu l'as dit Gilles, 20 tonnes de retardant, bah, ça se passe bien. Donc maintenant la question c'est comment on peut amener ça en service. Et c'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'une fois qu'on a montré que l'avion peut le faire, il faut que les opérateurs trouvent une façon de l'opérer. Aller récupérer 20 tonnes quelque part, il faut qu'il y ait de l'infrastructure au sol. Il y a tout un sujet d'emploi et de qui... Est-ce qu'on prend un avion de l'armée de l'air, de l'armée de l'air de l'espace française, qui n'est donc pas un avion du ministère de l'Intérieur de la Sécurité civile, et on lui fait contribuer à la lutte anti-incendie. Tout ça, ça doit s'organiser dans les différents pays. Tous les pays sont plus ou moins organisés en termes de lutte anti-incendie. La France est plutôt modèle. La France a la sécurité civile, qui est un joyau dans le domaine. Donc la France part de quelque chose. D'autres pays, comme l'Allemagne, n'ont pas vraiment d'organisation. Par contre, l'Allemagne a des incendies aussi.
Oui.
Ce que tu décrivais sur la Bretagne, ben, les Allemands ont vu leur sensibilité à ce sujet-là augmenter pas mal ces dernières années. Donc il y a un sujet assez international. Il y a un sujet de comment ces avions-là peuvent effectivement servir sans en faire une pure approche commerciale. Nous, on veut avant tout que notre avion, il serve, il serve efficacement à la lutte anti-incendie. Bah, mais ça n'est qu'une partie de ce qu'on propose par ailleurs.
– Là, on est au cœur du service public de l'aéronautique. Enfin, c'est utiliser des avions pour lutter contre les incendies, c'est les pompiers, quoi, au sens premier du terme. C'est vraiment, c'est le service public. Il y a une coordination européenne qui existe, qui s'appelle Rescue. Vous connaissez, comment ça fonctionne, Gilles? C'est un pool d'appareils mis en commun par les pays européens ?–
Voilà, tout à l'heure, je parlais là d'une commande de 22 Canadair. Elle s'inscrit dans ce pool-là. Mais avant que ces avions soient livrés, les pays européens se sont mis d'accord pour venir en aide entre eux quand il y avait besoin, et donc de déplacer des moyens sur des incendies. Et plus, il y a aussi certains avions qui sont maintenant qui sont directement dans ce pool. Donc, les avions français restent pour l'instant en France. Comme tu le disais, opérés par la sécurité civile. Mais il y a d'autres pays où ils ont déjà mis leurs avions dans le pot commun.
– Ok, d'accord. Voilà. On parle assez peu de l'hélicoptère dans la lutte contre les incendies, et pourtant, il joue un rôle aussi. C'est quoi le rôle parce qu'un hélicoptère, c'est plus petit, ça transporte moins d'eau, moins de retardant, non ?–
Alors, ce que je n'ai pas précisé sur les feux en Californie, par exemple, il y a eu une quarantaine d'avions qui ont été engagés là, au mois de janvier, 40 avions, 60 hélicoptères.
60 hélicos en 60. Californie contre les incendies.
Parce que en Californie, à un moment, les avions, quand les feux sont arrivés vers les zones urbanisées, là où il y avait une densité de maisons, les avions commençaient à être de plus en plus difficiles à utiliser, parce que quand on largue 10 ou 20 tonnes d'eau en une fois, ça fait quand même beaucoup de dégâts au sol. L'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'il peut aller vraiment largué sur un foyer. Mais là, bon, on en utilise beaucoup en France, hein, d'hélicoptères aussi. Hein. Ils peuvent intervenir beaucoup plus vite.
Et puis, ils peuvent faire des choses différentes. Quand lutter contre les incendies, ce n'est pas seulement larguer de la flotte sur le feu, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Jean-Brice, on parle par exemple avec un hélicoptère, on peut transporter les pompiers sur le site, on peut évacuer des blessés, on peut évacuer en urgence des pompiers qui seraient pris au piège par les flammes.
– Exactement, et j'allais dire, un même hélicoptère qui va pouvoir transporter un seau anti-incendie, ouais, ou qui aura en son sein de l'eau qui pourra larguer, peut être un hélicoptère qui amène ou ramène des gens en fonction des besoins. L'énorme avantage de l'hélicoptère est sa capacité à aller se poser n'importe où. Et Gilles l'a dit, pour l'eau, l'hélicoptère fait du largage beaucoup plus ciblé, donc est parfaitement complémentaire de ce que font les avions, dans des zones urbaines où il faut faire très attention. Et après, l'hélicoptère, oui, c'est ce moyen qui sauve des vies, qui amène les gens sur place au plus vite, ce que ne peut pas faire un avion, je veux dire, à part en larguant des parachutistes. Mais l'hélicoptère a cette force d'aller se déposer des gens, du matériel, peu importe ce qu'il faut, d'un point A à un point B, et voyage-retour.
On utilise beaucoup d'hélicos pour lutter contre les incendies en France, tu l'as dit Gilles ?
En France, oui, bien sûr, on en utilise de plus en plus, avec la possibilité, par exemple, d'aller pomper de l'eau dans les piscines privées.
Oui, c'est vrai.
Donc,
il y a des images très impressionnantes qui circulent sur Internet.
Ça veut dire que l'hélicoptère peut intervenir très très près du front de l'incendie.
J'ai lu aussi, Jean-Brice, qu'Airbus, on sort de la lutte contre les incendies, mais toujours dans cette aéronautique de service public, des avions et des hélicoptères sont aussi utilisés pour faire de la surveillance maritime, par exemple, surveiller les bateaux qui auraient tendance à faire du dégazage sauvage en mer.
Oui, mais ça c'est un point commun entre la surveillance des incendies, où on peut être beaucoup plus côté prévention avec certains de nos hélicoptères, voire... si je vais à l'extrême, un planeur à solaire qui s'appelle Zephyr, qui est un de nos produits, qui peuvent observer avec des caméras, avec des senseurs adaptés, observer les feux, les départs de feu, les propagations de feu. Et si on change de mission, effectivement, ces véhicules, nos avions de patrouille maritime et de surveillance maritime, nos hélicoptères, des trucs qui volent plus haut aussi, comme des satellites ou le planeur solaire, Tous ces vecteurs-là, aériens équipés des bons moyens, peuvent aller détecter des pollutions sauvages, tout un tas de dégradations. C'est la mission qu'on appelle de surveillance maritime que tous ces avions et ces hélicoptères peuvent réaliser.
Alors, on l'a dit, on l'a abordé, mais parlons-en franchement, la question du sauvetage, la question de l'utilisation d'avions et d'hélicoptères pour sauver des vies, ça fait partie des missions de service public dont je parle, que peuvent remplir des avions et des hélicos. Jean-Brice, il y a quelques exemples qui sont assez connus, par exemple, des A400M au Soudan, récemment.
Oui, alors le...
Tu peux nous rappeler le contexte
déjà ? On a beaucoup d'exemples. Le Soudan, une déstabilisation politique rapide, un pays qui devient politiquement très instable et j'allais dire dangereux. Et donc, il y a eu à ce moment-là le besoin d'évacuer beaucoup de civils. Des civils français et puis des civils d'un peu tous les pays. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un sport de masse de faire de l'évacuation dans ce contexte-là où on est menacé. Parce que la situation politique du pays est particulièrement instable, on peut se faire tirer dessus sur la piste, quoi. C'est pour être très, très clair. Donc, nos armées, en particulier l'armée de l'air et de l'espace, ont déployé des A400M qui ont fait un grand nombre de rotations très rapides. Je crois que le nombre total de gens ramenés de Khartoum doit monter à environ 5000, jusqu'à 200 personnes en même temps dans un A400M. Vous avez vu, il est derrière moi. Oh. Bon, c'est gros, mais ça fait 200 personnes dedans, ça fait quand même...
Ce sont d'ailleurs des images de l'opération au Soudan. Hein.
Ben voilà. C'est assez unique comme service. C'est des avions qui sont des avions militaires faits pour, entre guillemets, faire la guerre, et qui, dans un monde où, finalement, la frontière entre le civil et le militaire, entre la paix et la guerre, se fait plus floue, quand on a besoin d'évacuer des ressortissants français qui sont au Soudan, parce que le Soudan devient politiquement instable, on est un peu entre les deux. Et donc là, on envoie nos gouvernements décident d'envoyer leurs avions militaires, la France et les pays alliés. Et la 400M a été la bête de somme de cette mission-là, pas la seule, hein, mais a été a réalisé des performances extraordinaires, avec nous, donc, notamment les 200 personnes, les 198 personnes pour être précis, dans un avion. Et ça a permis de ramener les gens qu'il fallait ramener le plus vite possible.
Une opération assez impressionnante, effectivement, avec des A400M. Plus récemment, à Mayotte, après l'ouragan Chido, là aussi, des avions Airbus ont été utilisés pour sauver, faire du sauvetage.
Exactement de la même façon. Avec, j'allais dire, là, on n'était pas en train de lutter, on n'avait pas un problème politique, on avait un problème contre... une catastrophe naturelle et les conséquences d'une catastrophe naturelle. Donc là, le panel de ce que on a eu à faire, enfin de ce que plus exactement nos produits ont eu à faire pour nos clients, ça va de l'observation satellite qui permet de regarder très très vite comment évolue avec des passages rapides de satellites et des reprogrammations de satellites pour les faire passer sur Mayotte. On permet de regarder de très près comment ça se passait, comment ça évoluait. Et après, effectivement, il y a dans des périodes comme ça où les pistes sont endommagées, il faut aller se poser un peu n'importe où, on envoie des avions militaires qui se posent, je ne vais pas dire sur un terrain de boue, mais un A400M, ça se pose sur une plage. Hein. Donc, c'est des avions qui transportent jusqu'à 37 tonnes de matériel ou un grand nombre d'êtres humains et qui peuvent se poser sur des terrains très sommaires. Et dans des environnements comme Mayotte, ça a été encore une très belle démonstration de l'utilité de ces produits-là, qui sont au départ plutôt pensés pour des besoins très militaires, dans un environnement, là, très, très civil, au service de la population.
Il y a eu aussi une histoire d'évacuation d'enfants en Colombie avec un C-295. Tu peux nous en parler ?
Oui, alors c'est l'histoire qui émeut tout le monde. Les pilotes de ce C-295 sont venus la raconter à des employés d'Airbus et on avait tous une larme à l'œil. Il y avait quatre enfants qui ont passé une quarantaine de jours dans la jungle perdus. Et les quatre enfants avaient. Le dernier a fêté son anniversaire, son premier anniversaire, pendant ces 40 jours.
Dans la jungle.
Donc le dernier petit. Et ils n'ont pas été ni nourris, ni n'ont rencontré d'adultes pendant ces 40 jours. Et ils ont été repérés. On en voit les images derrière moi. Ils ont été repérés. Et finalement, l'armée de l'air colombienne a envoyé un C-295, qui est un de nos avions de transport un peu plus petit. Qui est allé les chercher. Les pilotes avaient un niveau de fierté, c'est des gens de l'armée de l'air colombienne, avaient un niveau de fierté et d'émotion, j'allais dire contagieuse, quand ils ont raconté leur histoire. C'était très, très fort.
– Tu m'étonnes, c'est incroyable de sauver la vie des enfants comme ça, perdu 40 jours dans la jungle. Je suppose, Gilles, que c'est assez fréquent que des avions soient utilisés pour des missions de sauvetage.
Oui, bien sûr, on les voit intervenir souvent. Par exemple, au Japon, il y a un an, quand il y a eu cet accident dramatique à Haneda, un avion, alors je ne sais plus ce que c'était, l'avion militaire de patrouille qui partait en mission. Ils avaient tourné toute la journée. Bon, il y a eu un problème et deux avions sont percutés. Mais ces avions sont sur tous les fronts. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et comme tu le disais, c'est des avions qui sont d'une maniabilité remarquable. Alors surtout aux mains de gens qui sont quand même bien entraînés. Alors pour avoir volé avec les pilotes de l'armée de l'air sur les A400M, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire, de se poser très très court, de manœuvrer au sol, parce que ça aussi, c'est des avions qui n'ont pas besoin d'avoir toute une infrastructure au sol, ils sont capables de reculer. C'est un avion qui fait une marche arrière, ça, quand même.
C'est assez impressionnant. En hélicoptère, etc. Il y a eu une histoire avec des H-225 au Japon. Ça dit quelque chose, Gilles ? Jean-Brice, pardon.
Oui, c'est une parmi beaucoup de missions de sauvetage. Les hélicoptères. Je vais peut-être généraliser la réponse. Les hélicoptères sont dans leur mission duale. Avant tout là pour sauver des vies. Je veux dire, même quand on transporte des employés sur une plateforme pétrolière, c'est d'un certain point de vue plus sûr que beaucoup d'autres moyens de transport pour aller très loin là-bas en mer. Et nos hélicoptères, que ce soit les 225, qui sont des avions, les hélicoptères assez gros, de plus de 10 tonnes, ou que ce soit le H-145, qui est l'hélicoptère de la gendarmerie, de la sécurité civile, qui est celui que j'ai vu emporter beaucoup d'êtres chers sur des pistes de ski vers l'hôpital le plus proche, ou que ce soit le H-160, qui est le dernier né dans la Marine nationale, c'est des produits qui, fondamentalement, en mission de recherche et sauvetage, en complément des avions souvent, mais au moment où il s'agit d'aller traiter, sont l'atout décisif, celui qui va descendre son treuil, avec éventuellement un plongeur accroché au treuil et remonter la personne qu'il faut remonter d'un bateau, d'une épave, ou de lieux absolument désastrés et devenus inaccessibles, comme les cas japonais.
C'est impressionnant. Il y a un système satellite pour des chiens qui s'appelle Agnet.
Alors ça,
c'est quoi ?
c'est, le raccourci est un peu vite fait.
Pardon.
Mais
explique-nous du coup.
C'est un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'étais sur notre site d'Elancourt, qui est un site d'Airbus Defence and Space en France où on fait beaucoup on travaille beaucoup sur les satellites et sur les solutions, les solutions de communication. Et Agnet notamment est traité. C'est à Elancourt que ça se passe. Les chercheurs en montagne de brigades cynophiles sont équipés de nos moyens de communication Agnet.
D'accord.
Et ça m'amène à un point un peu plus large. Nous fournissons, et ça, on pourrait dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'avion et l'hélicoptère ? Bon, c'est un fait, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'avion et l'hélicoptère. Mais nous fournissons dont fournit la police française en moyen de communication pendant les Jeux Olympiques. Il y a un grand programme qui s'appelle Réseau Radio du Futur, qui est un programme pour le gouvernement français. Et plutôt que de vous parler de succès commerciaux, le point pour répondre à ta question, c'est la communication aussi, ça compte beaucoup.
Ouais.
Quand on regarde un désastre, n'importe quel désastre, un tremblement de terre, les antennes 4G, 5G, tout ce qu'on veut, elles tombent.
Ouais.
Donc il n'y a plus de réseau. Et dans ces moments-là, il faut avoir une façon résiliente de communiquer. Alors il y a les satellites, c'est une chose. Il y a aussi
les téléphones satellitaires et trucs comme ça.
Et après, il y a les réseaux plus. Les réseaux, j'allais dire, du talkie-walkie étendu. Mais là, il faut des réseaux sécurisés, parce qu'on travaille dans des environnements où éventuellement il y a besoin d'être un peu protégé, de protéger son information. Et les fameux chercheurs en montagne sinophiles, autrichiens ou allemands, sont effectivement équipés de nos systèmes
net.
Mais ça se fait en montagne, là où il n'y a aucun réseau. J'ai pour ma part l'appli Yagnet sur mon téléphone portable et je communique de la même façon avec mon portable et en mode sécurisé avec un certain nombre de gens.
D'accord. Mais effectivement, non, mais tu as raison. On n'attend pas forcément Airbus au tournant sur ces sujets-là et pourtant Airbus déploie, travaille, développe des technologies de mise en communication qui sont utiles dans des cas de catastrophes naturelles, par exemple.
Bah c'est
un Mayotte, par exemple. Ouais.
C'est un complément naturel d'un certain nombre de choses qu'on fait. Du travail sur des avions. Des avions, ça a besoin de communiquer. Les hélicoptères aussi. Les clients qu'on sert, les gens qu'on sert, les missions qu'on sert, la communication est de plus en plus importante. Et on est dans un monde de plus en plus hyper connecté. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir accès à une vidéo, une info, une photo, un machin. Tout ça dans les 5 minutes. Il est important de pouvoir l'avoir de façon résiliente. Alors j'abuse un peu du terme résiliente, mais en mode post-sinistre, c'est-à-dire qu'on est sur un feu. On revient à la lutte anti-incendie, on est sur un front de feu. On a besoin de pouvoir communiquer entre l'avion, les pompiers au sol, etc. C'est un besoin qui est très complémentaire de ce qu'on sert par ailleurs et qui fait partie du panel Airbus. En complément assez naturel de nos satellites qui éventuellement eux-mêmes font de la communication et de nos avions.
Là aussi, sur un sujet sur lequel on n'attend pas forcément Airbus au tournant, et pourtant si, la cybersécurité. Vous avez des enjeux de cybersécurité, et quand on préparait l'émission, tu m'as dit qu'il y avait aussi des enjeux de souveraineté qui étaient liés à ça. Tu peux nous en parler ?
La cybersécurité, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Si je le prends d'un point de vue militaire, je regarde comment nos clients militaires en parlent. Au début, on parlait, il y a quelques dizaines ou centaines d'années, on avait des armées de terre, puis des marines. Et puis au XXe siècle, on a vu arriver des avions, l'armée de l'air. Le quatrième champ de bataille, assez rapidement déclaré, ça a été l'espace. On peut se faire la guerre depuis l'espace. On a tous en tête un certain nombre depuis même Ronald Reagan dans les années 80. Mmh. Et bien le cinquième champ de bataille, c'est le cyber. Avec l'arme cyber, quand on regarde ce qui a pu se passer récemment, des chaînes de télé qui se font débrancher par des cyberattaqueurs, on se dit qu'une attaque cyber massive peut avoir pour objectif de débrancher un pays, entre guillemets, d'en invalider la gestion des infrastructures du système de la grille électrique, de toute l'infrastructure électrique, les systèmes de communication. Donc ça devient une arme potentielle et dont certains non-gouvernementaux peuvent faire usage aussi. Donc il est très important, quand on est dans cette mission de protection de services publics et de protection de nos États, d'être aussi très compétent sur le cyber. On a, chez Airbus, 1500 ingénieurs qui travaillent sur le sujet, qui sont en général assez jeunes. Mmh. C'est quand même des trucs qui me font, moi, me sentir un peu âgé.
limite geek, hein, pour certains.
Malgré un passé assez digital, on doit absolument être présent là-dessus. Et c'est, de fait, au service de nos États, au service des missions souveraines de nos États, qui ont besoin d'être capables de se défendre quand il y a eu typiquement ce piratage récent d'une chaîne télé, c'est l'agence française en charge, l'ANSSI et Airbus, qui sommes allés ensemble remettre le système en place et assurer la solidité de ce qui avait été mis en place et comprendre ce qui s'était passé. Donc le cyber est un sujet qu'on ne peut pas négliger. Aucune entreprise ne peut le négliger. Certaines doivent juste se protéger. Nous, on propose.
OK. Il y a un enjeu aussi à protéger les données sensibles des gouvernements et des entreprises stratégiques. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les attaques cyber, c'est la volonté de s'attaquer au cœur d'une économie, à des enjeux centraux, stratégiques, et on pense, enfin c'est con, mais quand on pense à l'Europe, on pense à Airbus. Donc il y a un danger pour les avions Airbus, tu parlais tout à l'heure d'une attaque qui pourrait consister à clouer les avions au sol, tout simplement. Ça peut foutre un pays à genoux, ça, de clouer tous ces avions au sol.
Oui, on peut imaginer, il ne faut pas se faire peur à outrance, mais on peut imaginer tout un tas d'utilisations du cyber. On a, nous, de notre côté, finalement, deux vues sur ce sujet-là. Un, on est un expert cyber avec nos 1500 ingénieurs qui travaillent là-dessus et qui proposent des solutions dans la maison Airbus. Et en même temps, on est un utilisateur. Et ces solutions-là sont proposées à nos gouvernements pour aider justement à préserver la souveraineté et l'intégrité de tout ce qui est important pour les gouvernements. Alors, selon la sensibilité de l'auditoire, ça peut paraître un peu blabla ce que je raconte, mais c'est vraiment structurant, c'est fondamental. Et puis, dans nos produits, on a besoin d'être cyber-résistants. Nos avions, il faut s'assurer qu'effectivement, tout ce qui vole ne prend pas de risque de ce point de vue-là et est bien protégé. Donc là, on combine notre savoir-faire avion et notre savoir-faire cyber.
– On a entendu parler dans la presse généraliste récemment d'avions de ligne volant pas très loin de l'Ukraine qui avaient des problèmes de GPS, parce qu'il y a des brouillages qui sont utilisés par les Russes, par exemple. Ou pas que par les Russes, d'ailleurs.
– Là, on est au-delà du cyber. Quand on vole au-dessus de l'Ukraine, on n'a pas de GPS, on n'a pas de radio. Hein. Il faut juste savoir ça. Le champ de bataille actuel type Ukraine… apprend à faire de la défense un peu différemment. Le GPS, il ne faut pas y compter. Et les radios, ça ne marche pas très bien non plus. C'est brouillé à mort. Et donc, effectivement, ces zones-là sont d'ailleurs interdites de vol pour les avions civils. Les avions civils passent hors de portée de ces brouillages. Mais c'est vrai que dans des zones très brouillées, les avions peuvent avoir éventuellement des sujets. Enfin, je peux vous parler de ça quand je... Ouais. Quand je fais mon footing et que je me promène près d'un, dans une grande ville, près d'un bâtiment gouvernemental, curieusement, ma trajectoire est tout à fait la même. C'est-à-dire que le GPS ne marche pas très bien à cet endroit-là.
Les habitants de l'Île-de-France connaissent certains coins du boulevard périphérique qui sont brouillés parce que c'est les locaux des renseignements, notamment. Donc effectivement, ça paraît anecdotique, mais comme tu le dis, c'est structurant, c'est pour les conflits d'aujourd'hui et ceux de demain.
Exactement. Pour l'avion civil, il faut absolument qu'on l'avion civil garde son intégrité. C'est notre métier, c'est ce qu'on garantit. Et pour les avions militaires, là, on est un petit peu plus dans le mélange de défensif et d'offensif. Il faut pas être très naïf. Effectivement, beaucoup se préparent.
On continue à parler de l'avenir de l'aviation. L'avenir de l'aviation s'écrit aussi dans le contexte du changement climatique. Gilles, je t'ai demandé de nous préparer une petite chronique. Toi qui suis l'aéronautique depuis longtemps, tu as vu une industrie se mettre, ou pas d'ailleurs, en ordre de marche vers un monde plus résilient et plus économe en carburant. Tu peux nous en parler de l'avion de demain ?
Mais avec plaisir, parce que effectivement, donc comme tu dis, je l'ai vu se mettre en marche. Et au début, c'était à très petit pas.
Ok.
C'était vraiment un très petit pas. Mais là, aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le début des années 2020. Là, on est passé à grandes enjambées. L'industrie aéronautique a pris un engagement colossal, c'est-à-dire qu'à l'échéance de 2050, le transport aérien, l'industrie aéronautique n'émettra plus d'émissions de carbone.
Elle n'émettra plus ou elle sera neutre ?
Elle sera neutre, oui, tu as raison, la nuance est importante. Elle sera neutre
en carbone en 2050, comme le reste, comme l'automobile, comme
voilà.
C'est le même objectif.
Et donc, c'est pas un défi qui est tombé du ciel, hein. C'est en rapport avec l'accord de Paris qui a pour ambition de limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température de la planète à l'échéance de 2050 également. Donc voilà, là, il y a une cohérence. Donc, aujourd'hui, c'est simple, l'aéronautique est face au plus grand pari de son histoire. Et Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, donc ton patron, que tu connais bien, aime dire qu'on est dans la quatrième révolution de l'aéronautique. Alors, pour mémoire, donc, la première révolution, c'était simplement voler, apprendre à décoller et à rester en l'air. Donc ça, c'était la première révolution. La deuxième, c'était de voler en sécurité, et ça, on s'en sort pas trop mal. Et la troisième révolution, ça a été de permettre à tous de prendre l'avion. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle donc la démocratisation du transport aérien. Et concrètement, l'année dernière, eh bien, on est arrivé à 5 milliards de passagers. Alors 5 milliards de passagers, en émettant quand même quasiment autant de CO2 qu'un pays comme le Japon, qui est la quatrième puissance mondiale. Donc, 2050.
Donc, tu veux dire que c'est peu ?
C'est énorme.
D'accord, c'est beaucoup. Oui, d'accord.
Du moins, tout est relatif. Tout est relatif. Mais ça permet de situer quand même. Mmh. C'est 2,5% des émissions totales. Hein. C'est pas plus que ça. Hein. 2,5-3% des émissions totales. Mais ça reste quand même énorme quand il s'agit de les ramener à zéro. D'autant qu'en 2050, c'est pas 5 milliards, mais ça sera 10 milliards de passagers. Donc, pour y arriver. Eh bien, il va falloir vraiment tous s'y mettre. Et quand je dis tous s'y mettre, c'est évidemment donc les constructeurs, les motoristes, les pétroliers, les aéroports, la navigation aérienne, sans oublier les consommateurs.
Évidemment.
Donc, dès à présent, le premier moyen pour le moyen le plus immédiat pour enclencher le mouvement et puis pour se rapprocher donc de cet objectif de 2050, c'est de voler avec des carburants d'aviation durable, ce qu'on appelle aussi les SAF.
Hein. – SAF.
– SAF.
– C'est quoi un carburant durable ?–
Un carburant durable, alors il y a deux sortes de carburants, en gros, hein, pour être schématique. Le premier, c'est ce qu'on appellerait peut-être les biocarburants, c'est-à-dire des carburants qui sont produits à partir de la biomasse.
Okay. Voilà,
donc ça. Et puis, il y a les ISAF, les e-carburants, qui, eux, sont produits à partir d'une électrolyse. Alors là, je me tourne vers l'ingénieur. Mais c'est plus…
– Des carburants de synthèse.
– Des carburants de synthèse, voilà.
– qui sont faits à partir de… On combine de l'hydrogène et du dioxyde de carbone.
– Voilà. D'accord, donc là, on n'y est pas encore. Okay. En revanche, on a commencé à produire… Quand je dis on, c'est les énergéticiens qui ont commencé à produire donc des carburants, des biocarburants. Le problème, c'est que… Alors, le problème, je dirais, avant de parler des problèmes, on va parler quand même des choses positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avions modernes, on parlait de la 350 par exemple, peuvent voler avec 50% de… est certifié, est autorisé à voler avec 50% de carburant, mais il pourrait même voler avec 100%. Hein. Le problème, c'est que l'année dernière, la consommation de biocarburant, du moins de SAF, ça a été représenté 1% de la consommation totale des compagnies aériennes. Donc, avant d'arriver à 100%, il va falloir investir des centaines de milliards de dollars. Mais la montée en puissance, elle va être forcément progressive, puisque, par exemple, cette année, on va passer de 1 à 2%. Donc, c'est vraiment très, très progressif. Mais à terme…
– 1 à 2% de quoi ?–
De la consommation totale.
– OK, d'accord. Hein, de biocarburant dans le carburant total, d'accord.
– Voilà, par rapport au kérosène, hein, c'est-à-dire 2% de biocarburant, si tu veux, puis 98% de…
– Kérosène classique.
– De kérosène classique. Mais en 2050, on table sur le fait que les biocarburants auront permis de réduire l'empreinte environnementale de 65%. Donc il reste 35% à trouver. Voilà. Et alors on va les trouver où ces 35%? Alors bah, là, il faut que tout le monde s'y mette, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a, par exemple, au niveau du contrôle aérien, il y a quelques points à gagner ici au niveau du contrôle aérien en permettant aux avions de voler en ligne droite, en leur permettant d'éviter les zones d'attente, notamment lors des descentes vers les aéroports. Sur les aéroports aussi, il y a énormément de gains possibles. Et là, c'est déjà très, très bien engagé.
Ah ouais ?
Ouais. Là, il y a les aéroports sont déjà passés à l'électricité pour une partie du matériel de piste, mais également pour l'alimentation des avions quand ils sont devant le terminal, au contact, comme on dit. Là, de plus en plus d'aéroports, maintenant, proposent de brancher le système auxiliaire de l'alimentation de l'avion, hein, ce qu'on appelle l'APU, de le brancher sur le secteur, plutôt que de faire tourner
les moteurs.
Donc, les aéroports ont toujours été en avance dans la lutte contre les émissions. Quelles soient les émissions de CO2, mais également les émissions sonores aussi. Hein, ils étaient toujours en avance. Où est-ce qu'on peut encore gagner ? Eh bien, au niveau des avions eux-mêmes. Et là, donc, c'est évidemment là où le pari se situe. Donc, jusqu'à présent, chaque nouvelle génération d'avions a permis de gagner 12 à 15% de la consommation, donc de réduire le CO2 de manière proportionnelle. Donc ça a été le cas avec plus récemment, donc il y a une dizaine d'années, avec la 320 Neo et avec le Boeing 737 Max. 12 à 15% tous les 15 à 20 ans, ça c'est très très bon pour la trésorerie des compagnies, mais pour la planète c'est pas assez rapide. Donc là il faut vraiment faire un bond en avant, et parce qu'il reste un quart de siècle seulement, 25 ans pour le faire, et il faut tout réinventer. Il faut vraiment quasiment repartir d'une feuille blanche. Alors pas tout à fait blanche, parce que le siècle qu'on vient de passer, on a quand même appris à voler en sécurité, à produire des avions sûrs, mais il va falloir penser autrement. Donc en 2035, c'est-à-dire dans 10 ans, Airbus pense être en mesure de livrer les premiers avions régionaux propulsés à l'hydrogène ou à l'électricité. Et là, on parle d'avions donc de 50 à 100 sièges et qui sont capables de voler 30 à 90 minutes.
D'accord, c'est donc ça qu'on appelle un avion régional.
Ça, c'est vraiment la première marche. La deuxième marche, ça sera selon le calendrier d'Airbus en 2040, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Et là, ça sera du court courrier, a priori qui pourrait être volé à l'hydrogène, 100 à 150 sièges pour 45 à 120 minutes. Voilà.
OK.
Donc, la 2050, Airbus imagine une sorte d'aile volante équipée de deux turboréacteurs hybrides à hydrogène. Alors ça, les ailes volantes, on en a connu dans toute l'histoire de l'aviation. Souvent, elles incarnent le progrès en marche. Donc, on va voir si cette fois-ci, on va rejoindre le progrès. Donc les industriels en place, et ça je peux pour le vérifier tous les jours, avec les labos, comme par exemple l'ONERA en France, la NASA aux États-Unis, tous ces labos de recherche sont vraiment à fond là maintenant. Hein. Au début je disais qu'ils y allaient timidement, là maintenant ça y est, c'est parti. Mais ils ne sont pas les seuls, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que aujourd'hui, à la sortie des écoles d'ingénieurs aéronautiques ou des grandes écoles comme Polytechnique, tout ça, il y a de plus en plus d'ingénieurs qui créent leurs propres entreprises, qui lancent des projets assez incroyables. Alors, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai aussi dans le spatial, et ces start-up se multiplient. Et c'est à croire que cette transition énergétique de l'aviation donne des ailes aux nouvelles générations, et ça vole. Ça vole. Quand Airbus utilise un A380 pour tester ses projets, ben les start-up, elles utilisent des ULM. Voilà. Et donc, ça marche. Donc, Jean-Brice, quand tu croiseras Guillaume Faury, tu pourras le rassurer, la quatrième révolution de l'aéronautique est bien en marche.
Merci beaucoup, cher Gilles, pour cette chronique, pour planter un petit peu une discussion importante qui est assez centrale pour l'avenir de l'aéronautique. C'était un peu le but de cette émission, d'aborder ce sujet aussi. Jean-Brice, est-ce que tu crois sincèrement qu'il est possible de transporter deux fois plus de passagers avec infiniment moins d'émissions de CO2? On a 25 ans pour ça. Tu crois que c'est faisable?
Oui, je crois que c'est faisable. Je pense qu'il faut, il faut partir en excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. On aime bien les choses très simples. On aime bien dire ça ne va pas marcher, il faut arrêter de voler, tout le monde au sol, allez, c'est fini. C'est un discours assez facile. On aime bien aussi dire, mais de toute façon, vous en faites pas, ça va le faire. On a fait de la technologie dans ce domaine-là depuis le début de l'aviation. Ben, on va continuer à faire ce qu'on faisait très bien, de la technologie, et puis le problème va être réglé. Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Il va falloir, il faut un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Il faut un mélange de, et Gilles l'a très bien dit, il faut quand même s'assurer qu'on renouvelle un peu les avions, parce qu'aujourd'hui, on dit ce qu'on veut, on a beaucoup de vieux avions qui volent, on réglemente beaucoup les voitures et on interdit, on met des vignettes partout sur les voitures. On
ouais,
a
des avions
qui ont des vignettes 5, 6, 7, là, qui volent encore. Et franchement, et alors, évidemment, ça nous arrange, on vend des avions quand on fait ça, mais les compagnies aériennes ont beaucoup à y gagner et il faut une certaine incitation de ce côté-là. Le deuxième point sur les nouvelles énergies, sur le développement et l'amplification de l'utilisation d'énergies alternatives comme les biocarburants, les carburants durables au sens large, en particulier les carburants qui viennent de la biomasse, qui viennent du pourrissement de végétation, qui relâche lui-même du CO2 dans l'air. Au lieu qu'il relâche du CO2 dans l'air, on en fait de l'essence. Et avec l'essence, le CO2 part dans l'air de toute façon, mais via un avion ou via une voiture. Ça a besoin de se développer. Il faut y travailler. Les filières de carburants dits synthétiques, qui sont une version un peu hybride, où on utilise de l'hydrogène, quelque chose que certains pays, sous embargo, ont fait pendant des guerres, se fabriquer leur carburant eux-mêmes, parce que voilà, on leur coupait le pétrole. Les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment, ces filières-là aussi, il faut suivre, parce qu'on peut arriver à obtenir des carburants qui soient finalement, qui recyclent le carbone de façon beaucoup plus simple, et à des prix abordables. Et puis on arrive à l'avion. Et on motive effectivement beaucoup de gens avec l'idée d'arriver à faire l'avion vert. C'est quand même cool comme challenge, mais ce n'est pas inconscient. Le but n'est pas de dire on s'en fout, on n'entend pas la critique, puis de toute façon on n'est que 2,5%. On peut aussi dire qu'il faut aller regarder les autres secteurs, que l'aviation n'est pas... On aura réglé 2,5% du problème si on met tous les avions au sol. Mais... on peut aussi, nous, ce qu'on regarde, c'est comment on peut mettre le système de l'aviation dans cette voie de progrès qui est la voie de progrès de la transition énergétique, avec des carburants nouveaux, avec des avions nouveaux. Et quelle forme ça prendra ? Ben, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que le défi de mettre de l'hydrogène à bord est un défi très tracteur, très intéressant.
Ça, l'hydrogène, le problème, c'est le stockage, en grande partie, et ça pèse lourd de stocker de l'hydrogène.
Alors, ça pèse pas lourd, mais ça pèse volume. La densité, pour faire deux secondes de science, la densité énergétique de l'hydrogène, en masse, c'est plus léger que l'héro, c'est plus léger que le fuel.
Oui,
en volume, c'est quatre fois plus.
Ouais.
Donc là, il faut imaginer des belugas remplis d'hydrogène. c'est pas terrible comme principe. Donc, effectivement, ça commence par pas aller très loin, comme le disait Gilles, par nature du stockage d'hydrogène, qui au demeurant doit être liquide, donc très froid, donc c'est les avions cryogéniques. Donc il y a un paquet de défis technologiques derrière ça qui passionnent et sur lesquels on s'engage. Et si l'hydrogène n'arrive pas directement à l'avion, il peut aussi passer par la voie du carburant synthétique. Et puis, tu l'as dit, il y a tout un tas d'optimisations aéroportuaires et de contrôle aérien. Enfin, je ne sais pas qui parmi nous n'a pas fait 4 hippodromes au-dessus de Paris avant d'aller se poser à Charles de Gaulle. Il faut voir le temps et le carburant qu'on consomme quand on fait 4 hippodromes, surtout quand on arrive de Marseille.
Mmh. Les hippodromes, ce sont ces circuits d'attente avant d'atterrir.
Et oui, les hippodromes, c'est les
hippodromes, pardon.
Ça porte son nom, c'est les circuits que font les avions quand il y a un peu engorgement de l'arrivée dans un aéroport. Donc tout ça mis bout à bout, nous on est engagés, mais à cœur, à vivre cette quatrième révolution. La sortie, quelle sera la réglementation du nombre de gens qui prennent l'avion? Comment les gouvernements auront à adapter ça à l'horizon 2050 en fonction de ce qu'on aura fait? On sera partenaire de ces décisions-là. Mais pour l'instant, on est extrêmement motivés à transformer nos avions, à transformer cet écosystème, et à atteindre cet objectif 2050 que Gilles nous a bien rappelé.
– Mais tu entends ce discours critique qui existe autour de l'avion, autour de cette idée, y compris le débat éthique, sur faut-il prendre l'avion ? C'est un truc que tu entends, notamment chez les jeunes.
Oui, oui, bien sûr, on l'entend très bien. Et j'ai eu, j'étais dans mon job précédent, j'étais directeur technique d'Airbus, donc je faisais partie de ceux qui ont lancé l'avion à l'hydrogène, et j'ai beaucoup rencontré les groupes de jeunes, et on a des confrontations parfois un peu difficiles, mais je pense que souvent on arrive à se comprendre, dans le sens où il y a une problématique qui est une problématique assez mondiale, qui est une problématique d'équation de l'énergie. On a une obsession très européenne sur le sujet. Il y a une croissance en cours dans des pays du monde qu'on n'arrêtera pas et qui va être consommatrice d'aérien. Donc il y a intérêt plutôt à contribuer que cette croissance de l'aérien dans des pays en forte croissance soit la plus verte possible que de se regarder, notre problème européen. Et on a souvent tendance à oublier un peu ça et... En revanche, là où j'ai souvent donné raison aux gens avec qui j'avais des discussions, c'est qu'on a mondialement un sujet énergétique. Maintenant, pointer du doigt l'avion spécifiquement en Europe et à la limite spécifiquement en France, je pense qu'on est trop étroit dans la définition du problème.
Affaire à suivre en tout cas. On a bien entendu la mobilisation de l'industrie. Pour ce défi-là, qui va être un défi très important des 25 prochaines années. J'ai plusieurs questions à te poser sur l'avenir dans cette partie-là. Je change de sujet, on va parler de spatial. On a un acteur dans le spatial qui défraie la chronique, qui cartonne sur Internet, qui s'appelle SpaceX. Est-ce que c'est pas un peu l'avenir, SpaceX ?
Ah bah, en tout cas, c'est le présent.
Qu'est-ce que tu en penses
SpaceX, je dirais Elon Musk, perturbe le monde spatial sur ces deux segments. Sur le segment des lancements avec SpaceX, où il a dépassé les lanceurs conventionnels et les lanceurs européens, mais de plusieurs longueurs. Et puis, sur le monde des satellites, avec la
constellation,
avec les constellations. Alors, c'est très intéressant à observer. Et effectivement, son succès est assez indéniable. La question est, qu'en penser ? Quel modèle adopter pour l'Europe ?
Est-ce qu'on est dépassé ? Est-ce que Ariane 6, c'est ringard ?
C'est exactement, la question est là. On est en train de se dire, nous, qu'il faut plutôt viser des solutions qui soient efficaces. Typiquement, quand on parle d'effet environnemental, ne pas lancer tous les deux jours une grosse fusée qui, quand même, émet un petit peu dans l'atmosphère, mais lancer de façon plus ciblée, et avoir des satellites qui soient les bons, en bonne quantité, pour la bonne mission. Là où on a un effet waouh, un peu spectaculaire avec le monde de SpaceX Starlink, qui est impressionnant, qui a quand même été largement subventionné par le gouvernement américain à son début. Ne nous trompons pas, l'argent qui a été mis là-dedans par les Américains, l'Europe n'est pas prête de mettre le même montant. Donc il y a l'esprit audacieux d'un entrepreneur et puis il y a aussi l'assise financière qui a été mise. Et en Europe, on est en train de réfléchir à l'européenne, c'est-à-dire qu'on a nos frustrations, c'est long, mais en même temps avec une vraie conscience qu'il faut faire quelque chose. Et il y a des contrats comme le contrat Iris-Carré de satellites multifonction en constellation européen, signé récemment, en cours de lancement, c'est toujours plus difficile de faire quelque chose en européen que de faire à une entreprise un jeu de constellation. Mais c'est sur cette voie-là qu'on est. Et puis on a des satellites qui s'appellent OneWeb, qui nous permettent aussi de proposer des constellations en attendant. On va pas se laisser aller. On ne va pas se laisser faire. Je ne suis pas sûr que nous ne sommes pas sûrs que la copie du modèle américain, du modèle SpaceX Starlink dont on observe le succès aujourd'hui, soit la méthode européenne.
Ok. À suivre également, tu parles de méthode européenne, c'est intéressant. Il y a aussi l'enjeu du programme de défense de demain. Gros sujet. De discussion, voire de tension entre partenaires européens. On parle du remplacement du Rafale. On parle du drone, de l'eurodrone. Tu peux nous parler de ces différentes négociations ? Tu es au cœur, toi, Jean-Brice, de ces enjeux-là.
– Oui, en effet. ce sont les sujets de demain. On est effectivement dans le contexte actuel. L'Europe entre des forces politiques, des grands blocs, on peut parler de la Russie, mais on peut surtout parler des États-Unis et de la Chine, l'Europe a besoin de trouver son avenir européen. Dans le monde des avions de chasse, ça s'appelle FCAS en anglais, SCAF en français, le système de combat aérien du futur, Future Combat Air System. Ce programme-là est un programme typiquement visant à faire l'Europe de l'aviation militaire, avec Airbus dans le sujet, bien sûr, mais sur l'avion, le leadership est chez Dassault. Mm-hmm. Mais il y a aussi des drones et il y a aussi des systèmes de communication. Ça, c'est l'ambition européenne. Et il faut arriver à l'exécuter d'une façon ou d'une autre. Ces programmes-là, évidemment, font parler parce que c'est des programmes en coopération et que toute coopération veut dire des alliances entre États ou des désaccords entre États. On aime bien en parler. Il faut le faire. Il faut le faire. Je reviens à ce qu'était l'histoire d'Airbus et ses 50 ans de l'aviation commerciale. Il faut le faire. Il faut, dans 50 ans, se retourner et se dire « on l'a fait ». Et peut-être même dans 20. Et pas se retourner et se dire « ah ben, on a encore acheté américain ». Donc c'est ça l'objectif. Et le drone, tu parlais de l'Eurodrone, qui est un programme pour le coup en développement, ouais, où nous sommes leaders de ce programme, avec des partenariats avec Dassault en France et Leonardo en Italie. C'est aussi un programme en coopération assez difficile, mais qui a pour objectif de boucher un trou. L'Europe n'a pas de drone. Et peut-être pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, quand on veut observer d'un peu haut avec un drone, on prend un drone américain. Le jour où les Américains, parce que quelqu'un à la Maison-Blanche a décidé que, bah non, c'est plus possible, le jour où les Américains décident qu'ils débranchent, on n'a plus de drone. On n'a plus cette capacité-là. Et c'est vers ça qu'on va.
– Et je vous rappelle qu'il y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui a d'ores et déjà, par le passé, débranché des trucs. Voilà. – Ouais,
sans allusion.
non, mais c'est vrai.
– L'allusion était directe. Ce qu'on essaye de faire, nous, alors la maison Airbus, avec notre ADN européen, on est évidemment au cœur, mais ce n'est pas le monopole d'Airbus, ça doit être une volonté globale de tous les acteurs, c'est d'arriver à faire les produits qui seront les produits de l'Europe demain, entre ces gros blocs que nous avons à l'Est et à l'Ouest.
– Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, sur ma chaîne, la notion d'autonomie stratégique européenne, c'est un truc qu'on prononce depuis le discours de la Sorbonne de 2017. Toi, tu fais partie des gens qui montrent que, en fait, c'est concret, l'autonomie stratégique européenne. La question de la capacité des Européens à faire des trucs par eux-mêmes, bah, typiquement Airbus, c'est oui ou non, on y arrive. Et je trouve ça super intéressant. Donc, à garder en tête, ça aussi, pour nos réflexions futures. Je voudrais que tu me parles d'un projet de recherche qui avance. Et je sais qu'il te tient à cœur. Il s'appelle le Zephyr. C'est quoi ce programme ?
Alors, Zephyr,
en plus, on a des images.
Zephyr, c'est un... C'est un des chouchous de beaucoup de gens chez Airbus, moi en tête. On a créé une petite filiale pour gérer ça. Je suis le patron du conseil d'administration de la filiale.
Alors, c'est quoi ça ?
Donc, Zephyr, à l'origine, c'est un projet anglais. C'est un projet du Royaume-Uni. C'est un planeur solaire. Donc là, vous voyez un lancement à la main. Alors maintenant, on ne le lance plus à la main. On le lance porté par une camionnette pour être capable d'être un peu plus stable en vitesse. Ça ne pèse pas bien lourd. Ça vole théoriquement infiniment.
C'est ça que je trouve incroyable.
Là c'est zéro émission, hein, vous le dire.
Explique-moi comment on peut voler infiniment.
Vous avez des. Tu vois, sur les longues ailes qu'on voit sur le film, il y a les panneaux solaires, les moteurs sont électriques, et l'avion se recharge le jour, enfin les batteries se rechargent le jour, et se déchargent la nuit, et avec ça, on tient. Et donc actuellement, d'ailleurs, il y a un Zephyr en l'air qui ne va pas tarder à se reposer sur sa base au Kenya. Et on a, avec ça...
– Combien de temps ?–
De vol ?–
Ouais. Non, oui, c'est ça, celui qui tient, là, il tient depuis combien de temps ?–
Oh, bah là, il y est depuis 2 semaines. Mais
c'est incroyable.
Non, le record qu'on a tenu, c'était 64 jours.
– 64 jours en
mais
vol ?–
En théorie, c'est presque infini, c'est pas complètement infini, parce que les batteries, quand elles cyclent, on sait tous avec nos téléphones portables qu'au bout d'un moment, on a moins de batteries, mais ça peut voler assez longtemps, et ça peut faire de l'observation. Et alors là, maintenant, on se ramène aux missions. Ça peut observer de façon très précise des zones propices aux incendies et détecter les départs très très vite. Ça peut observer tout un tas de zones post-sinistre. Et puis ça peut aussi être un relais de communication. Ça peut remplacer les antennes 5G, LTE, etc. Sans compter les applications militaires. Un grand nombre de clients militaires sont très intéressés par cet avion parce qu'il est relativement discret.
Incroyable ce projet d'avion éternel qui ne se pose virtuellement jamais, théoriquement en tout cas jamais. Extrêmement intéressant.
C'est le cousin en altitude des projets de Bertrand Piccard.
Oui, de Bertrand Piccard, ça fait penser à Bertrand Piccard. À suivre, donc ça s'appelle le Zéphyr, ce projet-là qui continue à progresser. Je voulais te poser une question, je ne pouvais pas ne pas te poser cette question, cher Jean-Brice. Votre concurrent direct s'appelle Boeing, et Boeing en ce moment ne va pas bien. Vous, en tant que Airbus, est-ce que ça vous réjouit de voir votre principal concurrent dans la sauce ?
Alors, réponse courte, pas du tout.
Ah bon ?
Quand il arrive quelque chose à nos concurrents, qui sont des gens qu'on respecte, qui sont des pros de l'aéronautique, qui font des tas de produits très bien, dans lesquels d'ailleurs on vole certains d'entre nous pendant la semaine, il n'y a aucune raison de se réjouir. Typiquement, quand il s'agit de sécurité, on a eu beaucoup de sujets de sécurité, quand il s'agit de sécurité, il n'y a pas de concurrence. La sécurité, c'est un objectif de tout le monde. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à... Nous, globalement, chez Airbus, la façon dont on regarde ces sujets, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Ça nous montre à quel point l'équilibre qu'on a atteint, tu parlais de la révolution de la sécurité du vol, l'équilibre qu'on a atteint est un équilibre qu'il faut préserver chaque jour. Et on regarde ce qui peut s'être passé en essayant de regarder ce qui pourrait nous arriver. Et donc, il faut s'en protéger, il faut s'en inspirer, il faut rester humble. Il faut l'arrogance qui consiste à dire « bon, mais ils ont un genou à terre, c'est génial, c'est mieux pour nous », c'est pas du tout l'attitude à adopter. En tout cas, c'est pas l'attitude d'Airbus de tout en haut à tout en bas.
Intéressant, effectivement. Je me souviens, quand on avait préparé cette émission, que tu m'expliquais ça, le fait... Airbus n'a rien à gagner à ce que Boeing ait un genou à terre. Ça marche pas comme ça. Parce que c'est pas un système de vases communicants, qu'il y en a un qui va pas bien. L'autre va mieux. Gilles, quelles nouvelles, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de l'année 2025 comme nouveauté dans le domaine de l'aviation ?
Alors, comme ça, les nouveautés, je pense pas qu'il y aura une grande nouveauté. En revanche, j'ai parlé de tous ces projets portés par des start-up, mais également portés par Airbus. Par exemple, je pense au projet EcoPulse, du moins au démonstrateur EcoPulse, dans lequel Airbus est impliqué aux côtés de Safran et de Daher. C'est un avion électrique avec la puissance distribuée. On est déjà dans l'avion du futur. Ils ont tous les trois ensemble, ils ont réussi à le faire voler, à accumuler énormément de connaissances, et donc tout ça, eh bien, ça va rejaillir au fil des mois dans des projets. Il y a une société qui s'appelle Beyond Aero à Toulouse, qui a fait voler un ULM avec une chaîne de propulsion alimentée par de l'hydrogène. Alors, il a fait un tour de piste, c'est rien du tout à l'échelle d'un avion qui traverse des capacités d'un A350 qui est capable de rester 22 heures en vol. Mais c'est le début. Et donc, c'est comme ça que va se faire cette révolution, cette quatrième révolution. Et ce que je voudrais vraiment ajouter, c'est que la nouvelle génération d'ingénieurs qui arrive aujourd'hui, celle qui est dans les écoles, celle qui est sortie depuis 2, 3, 4, 5 ans, qu'on les retrouve dans les start-up ou chez les motoristes ou chez les avionneurs, c'est des gens qui ont une véritable conscience environnementale. Et cette conscience environnementale, ils la mettent au service de leur passion de l'aviation. Mmh. Et c'est pour dire que là, les deux se rejoignent. Et moi, je suis extrêmement optimiste parce que je sais que c'est grâce à eux qu'on pourra continuer à voler au tournant du siècle.
Intéressant. Intéressant. Jean-Brice, pour les personnes qui nous ont écoutés et qui aimeraient bien rejoindre la famille Airbus, tu peux nous parler des jobs qui existent chez Airbus ? Tu parlais de 150 000 collaborateurs tout à l'heure dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire chez Airbus ?
Bah, chez Airbus, on peut faire une quantité de jobs assez phénoménale. Du job col blanc ingénieur qui lui-même couvre une quantité de boulot, de la conception d'avions, des boulots numériques, comme travailler dans le cyber. On est de plus en plus porté sur le data, donc des data scientists. Donc on a tout le panel de jobs pour de la R&D, j'allais dire. Après, il y a tout ce qui est production. Un avion, ça se produit pas, ça se fait pas produire par un robot d'intelligence artificielle, en tout cas pas encore. Et donc on a tout un panel de production et tout un panel de relations avec le client, que ce soit dans le monde commercial amont ou dans le monde du service aval, du service à la clientèle. Donc ça fait une panoplie de jobs autour de produits assez différents finalement, de gros avions de ligne qui est quand même gros sujet avec un effet de masse, l'hélicoptère qui est un peu plus familial avec des débouchés d'une polyvalence extrême, les avions militaires avec leur application de service civil, et puis tous ces projets à venir, oui, il y a de quoi se servir et on a besoin de force vive.
Ouais, n'hésitez pas, en tout cas, vous retrouverez sur le site internet d'Airbus tout ce qui pourra vous intéresser si vous voulez candidater. Merci beaucoup Gilles Roy de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je rappelle que tu es journaliste fondateur du site Aérobuzz, que vous êtes présent à Aérobuzz sur Twitch également, ainsi que sur YouTube. Sur Twitch, c'est la chaîne qui s'appelle Jumpseat. N'hésitez pas à la follow. Merci cher Gilles pour les chroniques qui nous ont permis de mieux réfléchir. Merci à toi, cher Jean-Brice Dumont. Je rappelle que tu es le directeur de Airbus Space and Defense. Defense and Space, pardon, dans ce sens-là. Merci d'être venu répondre à toutes mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a donné envie de continuer à réfléchir à l'aéronautique pour la suite de nos discussions. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Salut et merci Airbus pour le partenariat.